Vous écoutez RTL.
RTL soir jusqu'à 20h.
On refait le monde. Marc-Olivier Fauchien.
19h18 sur RTL. C'est l'heure de l'échange d'idées pour vous aider à vous faire la vôtre. On refait le monde ce soir avec la conseillère en communication Nathalie Yanetta. Bonsoir Nathalie.
Bonsoir Marc.
J'ai mélangé Nathalie et
oui,
votre famille en même temps.
Oui, mais vous inquiétez pas.
Avec le directeur adjoint de la rédaction du Figaro. Bonsoir Yves Tréhard.
Bonsoir Marco. Bonsoir à tous.
Avec le directeur de la rédaction du nouveau magazine littéraire. Il est ici chez lui à RTL. Bonsoir Nicolas Damanac.
Bonsoir.
Et Alain Duhamel nous a rejoint. Rebonsoir.
Rebonsoir.
48 heures après la blessure à l'œil du gilet jaune Jérôme Rodriguez, donc tir de lanceur de balles de défense ou grenade de désencerclement, la police des polices enquête. Mais la controverse sur le maintien de l'ordre des manifestations est relancée. 101 enquêtes sur des possibles violences policières ont été ouvertes depuis le début du mouvement. Emmanuel Macron, lui, a défendu depuis l'Égypte le professionnalisme des forces de l'ordre aujourd'hui. Problème de sécurité ou pas? La répression va-t-elle trop loin ou pas? Sur les réseaux sociaux, qu'en dit-on? Benoît Galeret, bonsoir.
Bonsoir, mais les images de ces violences, en tout cas, attisent la colère des internautes depuis le début, depuis l'acte 1, d'autant qu'on y colle souvent un sulfureux parfum de censure, pas vu à la télé ou même pas vu sur YouTube, puisque Le Média, par exemple, accuse aujourd'hui Google de censurer les vidéos des violences policières publiées ce week-end. Il y a un fameux documentariste, David Dufresne, qui recense depuis le début ces violences, dont certaines présentent des manquements déontologiques graves, concède Le Monde. C'est trié par ville, type d'arme, type de blessure à Lucine Margot. Ce ne sont pas des accidents, là. C'est une politique de répression, accuse un autre. Mais Marie-Hélène et d'autres rétorquent. Et les violences des gilets jaunes, on en parle. Jérémy leur répond qu'on n'attend pas la même exemplarité d'un manifestant en colère et de forces de l'ordre formées et payées avec l'argent public. Et Rodriguez faisait rien, regardez la vidéo, s'écrit Mick. Bah tout de même, ça amuse que les classes moyennes découvrent la police. C'est bon, là, vous comprenez ce que vivent les minorités de quartier tous les jours depuis des années? Vous comprenez pourquoi des enfants fuient devant les policiers, meurent sur des installations électriques? Jean-Paul hésite. Oui, le flashball, la grenade, c'est dangereux, mais faut-il les supprimer? On va équiper nos policiers avec quoi? Des arcs et des flèches à embout caoutchouc alors qu'ils se prennent des boules de pétanque, des cocktails Molotov? Florent en est persuadé. Utiliser des armes dangereuses, c'est pas que pour mater les manifestants, c'est une façon de dissuader les autres d'y aller. JB, lui, en veut aux médias, enfin. Vous vous rendez compte que dès les premières alertes de Dufresne, on attendait que vous dénonciez ces violences, vous relayez les mensonges de Castaner. C'est comme ça que vous créez la rupture entre les médias et les Français. Conclut-il.
Nicolas Domenech, le maintien de l'ordre est en débat ou pas? Circuler, il n'y a rien à voir.
Non, il y a à voir, mais simplement il n'y a pas à voir que dans le maintien de l'ordre. Je veux dire, on ne peut pas raisonner sans constater la montée de la violence à tous les niveaux, la violence verbale pour commencer, puis la violence, moi j'ai suivi de près les premières manifestations, j'étais vraiment effrayé quoi, de ce le niveau que ça atteignait contre les forces de l'ordre qui recevaient pavés, d'objets divers, etc. Donc à partir de là, il se passe aussi des violences du maintien des violences des forces de l'ordre qui sont, et ça c'est une bonne chose, qui sont mises en cause par les services de police ensuite, mais on ne sait pas ce que ça devient. C'est ça qui me gêne beaucoup, c'est que bon, il y a des enquêtes de l'IGPN, mais ensuite, est-ce qu'il y a des policiers qui sont suspendus ou pas? Je veux dire, donc ça, c'est la première chose qui me gêne. La seconde chose,
c'est vrai que le commissaire Duvar, là, le fameux dont on a beaucoup parlé, finalement, ce truc-là, c'est un peu perdu, par exemple.
Oui, mais c'est parce qu'il y a une instruction judiciaire, et administrative. C'est normal que ça ne se passe pas comme ça en deux minutes.
En même temps, vous avez vu le boxeur, aujourd'hui, il y avait
l'argument est bon.
Je vais juste terminer pour les auditeurs qui n'ont pas été au bout de mon argument. Le boxeur, lui, est emprisonné en attendant son procès. Aujourd'hui, il y avait un appel pour demander sa libération, c'est renvoyé à mercredi.
Mais le fait que la clarté ne soit pas faite, eh bien, encourage les exploitations politiques qui sont sidérantes, aussi bien de la part de Marine Le Pen, qui nous parlait de, attendez, faut que je cite, de mutilation de l'opposition. C'est dingue, de Jean-Luc Mélenchon, d'Éric Drouet qui appelle à l'insurrection, et au soulèvement. Dire, bon, mais il faudrait que la clarté soit faite rapidement.
Non, mais si vous voulez, le problème, c'est que comme il n'y a pas de corrompu sans corrupteur, il n'y a pas de violence policière sans casseur. Ça me paraît logique. Et je suis assez d'accord avec la remarque d'un des internautes qui dit, la violence des gilets jaunes, et comme Nicolas, je l'ai constaté moi aussi pour m'être baladé sur certains champs de bataille, elle est quand même rude.
Vous appelez ça champ de bataille réellement?
Moi je me souviens quand même des premiers samedis de décembre, notamment le samedi où l'Arc de Triomphe a été tagué. J'étais quand même pas très loin de l'avenue Kléber, je peux vous dire que c'était quand même assez chaud. Bon, alors il y a une exaspération qui monte du côté des forces de l'ordre, parce qu'il n'y a pas que des policiers, il y a des gendarmes, il y a des techniques qui ont évolué, puisque depuis le début de l'année, je crois que les techniques mises en place ne sont pas tout à fait les mêmes. Là où je rejoins l'avis un peu général, c'est qu'on aimerait quand même avoir un suivi des instructions, ou plutôt des enquêtes qui sont menées quand il y a des dérives, quand il y a des gestes policiers qui sont peut-être pas tout à fait orthodoxes. Voilà, mais sinon le reste, moi je suis assez d'accord avec le président de la République, pour le coup, je prends plutôt le parti des forces de l'ordre dans cette histoire.
Et c'est ça le problème, on a l'impression que dans un débat comme celui-là, on est obligé de prendre parti pour les forces de l'ordre ou contre les forces de l'ordre.
Non, je prends le parti. Je les défends.
Je dis pas pour vous, Yves. Je dis juste que dès que l'on critique la police, on est donc forcément des casseurs ou bien on est anti-policier, ce qui est évidemment pas mon cas. Voilà. Il y a un travail qui a été fait remarquable, cité par un de vos internautes. Il a cité Dufresne. C'est David Dufresne qui, depuis le début de ces manifestations, fait un travail absolument remarquable, journalistique, étayé, documenté, vérifié. Il a créé un hashtag qui s'appelle Allo Place Beauvau, c'est pour un signalement. Il en est à plus de 350, je crois. Je vous invite tous à aller sur le compte Twitter de David Dufresne et vous verrez ce que sont ces violences policières. Ça ne veut pas dire, justement, que tous les policiers sont violents. C'est bien pour ça qu'ils font un travail comme celui-là. Parce qu'il faut un tri. Pour pouvoir dénoncer les violences, il faut pouvoir les pointer du doigt. Et donc, et c'est là où je vous rejoins, vous, Marco et Yves, les pointer du doigt et donc les sanctionner. Parce que sinon, ça donne le sentiment, effectivement, qu'il y aurait de l'impunité d'un côté ou de l'autre. Ce qui, pour le coup, là, est anti-républicain.
Alain Duhamel, est-ce que malgré tout, et vous commenciez à le dire tout à l'heure dans votre édito de 18h30, un des problèmes, c'est qui on envoie pour le maintien de l'ordre?
C'est quand même un des sujets.
Parce que compte tenu du fait qu'il y a une manifestation par semaine depuis maintenant 11 semaines, qui a en plus beaucoup, beaucoup d'actions locales, etc., c'est vrai qu'on est obligé de mobiliser tout ce qui, en France, porte un uniforme sombre.
Hein. C'est ça.
Bon, alors, parmi ceux-là, il y a ceux comme les gendarmes et les CRS qui reçoivent, et qui sont entraînés pour ça, et qui reçoivent une formation spécifique maintien de l'ordre. Ça ne veut pas dire qu'ils commettent jamais d'erreur, mais ils sont formés pour ça. Et puis, ils sont obligés de prendre aussi le reste, c'est-à-dire des policiers dont la spécialité est tout à fait différente, normalement, et qui, eux, n'ont pas les techniques qu'il faut, et quelquefois, n'ont pas forcément non plus la même discipline.
Mais ils ne sont pas équipés de lanceurs de balles, quand même.
Non, mais je sais, je ne l'ai pas dit.
Moi, ce que je voudrais dire, c'est
d'une part que c'est tout à fait vrai que dès qu'on s'en prend à la police, immédiatement, il y a beaucoup de protestations. Disons que quand on s'en prend aux gilets jaunes, on ne reçoit pas une pluie de pétales de rose non plus. Il y a la même mobilisation, mais dans l'autre sens. Et ce que je voudrais dire aussi, puis j'en aurai fini, c'est que la violence des casseurs, ou de certains gilets jaunes, pas des gilets jaunes, et la violence des policiers, ou plutôt de quelques-uns, ça n'est absolument pas nouveau. Non seulement ça n'est pas nouveau, mais ça n'est pas du tout plus intense et plus violent que ça n'était auparavant. Au contraire, moi qui ai connu toutes les manifestations depuis 58 et participé à un moment à certaines. Sur l'Algérie. C'était ma génération. Bon, je peux vous dire qu'à l'époque, la police était infiniment moins précautionneuse qu'aujourd'hui. Il y a d'ailleurs eu des horreurs.
Parce qu'il n'y avait pas les dispositifs d'enquête.
Il y a eu des horreurs. Non, mais il ne faut pas oublier qu'à l'époque, Dieu merci, on n'en est plus là, mais qu'il y a eu des dizaines de morts envoyées dans la Seine, etc. Il faut se rendre compte un peu. Et que, inversement, en 68, certains, en tout cas, des manifestants étaient aussi violents, pas aussi violents, beaucoup plus violents qu'aujourd'hui. Et je dirais que moi, ce qui me paraît original aujourd'hui, ça n'est pas du tout la violence. Ce qui me paraît original et déplorable, c'est la haine. Parce que la haine, depuis 1962 et la fin de la guerre d'Algérie, on ne l'avait pas mesurée à ce point, et elle est antidémocratique et assez effrayante.
On imagine mal la tragédie du métro Charonne aujourd'hui. Je pense que ça ne pourrait pas exister. Vrai qu'on a des instruments.
Que j'y étais, alors.
Des instruments de mesure et surtout Il y a des techniques policières qui ont été affinées aussi,
ah,
hein,
oui,
il faut
oui,
le dire.
Oui.
Et puis surtout, eh bien, avec la présence de la vidéo, vous pouvez pas faire n'importe quoi.
Alors, il y a quand même la présence de la vidéo, puisque ça a été une des mesures annoncées. C'est notamment pour surveiller l'usage de ces fameuses armes LBD.
Lanceurs de balles de défense.
Et mercredi, le Conseil d'État va devoir décider si oui ou non il faut les utiliser. Je vous demande votre avis dans un instant sur RTL.
On refait le monde
dans RTL Soir.
Avec Marc-Olivier Fogiel.
Mercredi, donc, le Conseil d'État devra examiner donc, l'usage de ces armes de défense, lanceurs de balles de défense, puisque la CGT et la Ligue des droits de l'homme demandent la suspension de leur usage. Vous seriez le Conseil d'État, Nicolas Domenech hein.
Non, je ne suis pas le Conseil d'État. Dieu merci. Mais deux choses. D'abord, sur les caméras piétons, c'est-à-dire, moi, je suis un grand défenseur de cette pratique-là, pour l'avoir vu tester dans des villes comme Saint-Étienne, où j'ai vu que constater que, au fond, ça développait d'autres attitudes beaucoup plus respectueuses envers ceux qui étaient les délinquants et les délinquants eux-mêmes envers la police. Mm-hmm. On se sait regarder et donc on ne se conduit pas tout à fait de la même façon. Mais j'en profite d'avoir la parole pour diverger un petit peu avec
ma question.
Nous, avec votre question, avec la remarque tout à l'heure d'Alain Duhamel sur la violence. C'est vrai que pendant l'Algérie, on a eu des moments beaucoup plus violents avec des morts, etc. 68, sans problème. Là où je suis en désaccord, mais il va me dire que c'est parce que je l'ai vécu, donc je n'ai rien vu. Mais sauf que mai 68, c'était pas du tout les mêmes violences, les mêmes virulences contre peut-être contre les policiers. Il y a eu des bastons. Mais pardon, ni contre les journalistes, ni contre les magasins, et d'une manière générale, il y avait quand même une alacrité, je veux dire quelque chose de plus joyeux, de
oui,
plus
mais
printanier.
Parce que c'était pas la douleur,
c'était pas du tout.
Non, mais Nicolas a revu sa jeunesse.
Mais donc,
si vieux.
Comme souvent, quand on prend de l'âge, quand on relit sa jeunesse, on l'enjolive.
Non, mais ça n'a rien à voir avec 68.
Je n'ai jamais dit que les journalistes avaient été attaqué en 68.
Non,
je n'ai jamais dit que les magasins...
Non, mais c'était l'état de la violence.
L'état de la violence.
C'est de ça dont je parle. Quand les journalistes sont attaqués, c'est de la violence. Je n'ai jamais dit que les boutiques avaient été pillées en 68.
Jamais dit ça.
En revanche, sur les violences, j'ai vu des charges de CRS devant chez moi, donc j'étais vraiment un très bon endroit pour ça. J'ai vu des charges de CRS d'une violence incroyable, et j'ai vu des paquets d'étudiants qui leur envoyaient sur la figure.
On disait CRSS à l'époque.
Pour revenir à 2019 et à mercredi prochain, les LBD, tiens, alors Alain, il faut les suspendre.
Bah écoutez, moi oui, a priori oui. Vous me demandez, oui.
Ouais, très bien. Ça a le mérite d'être clair.
Bah, c'est une arme dont on voit les dégâts. Il faut savoir s'en servir. Il y a déjà des règles qui manifestement ne sont pas respectées. Il faut pas
tirer dans la
tête, etc. Or, les blessés le sont évidemment au visage. Et puis surtout quand même, est-ce qu'il y a d'autres polices en Europe qui sont équipés de ce genre d'armes-là pour aller.
Je ne voudrais pas dire de bêtises, mais je pense que oui.
Non, mais la question posée est intéressante.
Ils les ont retirés.
La question posée est intéressante parce qu'on a une technique de maintien de l'ordre en France, historique, qui est particulièrement musclée et violente. Ce qui n'est pas du tout le cas en Allemagne, par exemple. En Allemagne, vous avez des manifestations, vous n'avez pas de policiers...
Disons dans l'Allemagne d'aujourd'hui.
Pas de policiers, non, évidemment. Bah. Mais entre Alain et Nicolas, on vit dans l'histoire.
Là, on est en plein dans l'histoire.
Vous avez cette chance.
Bon, alors, soyons en 2019, puisque c'est ainsi, et en Allemagne, par exemple, il n'y a pas cette tradition de maintien de l'ordre dans des manifestations. La police n'est pas armée. Elle ne va pas au contact.
Mais Benoît, sur les LBD, attendez, juste sur les LBD, Benoît, vous avez regardé.
Le seul pays en Europe qui utilise les LBD en tout cas en mode offensif.
On est le pays dans le maintien de l'ordre, dans le cas de manifestations comme ça, le plus violent, d'une certaine façon.
C'est vrai que les policiers allemands ne sont pas armés et c'est vrai qu'ils prennent plus de précautions. Mmh. Mais c'est vrai aussi qu'il y a eu des catastrophes en Allemagne en matière de maintien de l'ordre qu'on n'a pas connues, nous. Par ailleurs,
vous faites référence à quoi ?
Bah, en Allemagne, il y avait eu, il y a une dizaine d'années, des manifestations terribles et ça s'était horriblement mal passé.
Avec des morts
Ça avait traumatisé l'Allemagne à l'époque. Donc par ailleurs, en Italie, par exemple, il y a eu des manifestations qui ont été réprimées avec férocité et ça s'est passé très mal. Et enfin, pour en terminer, en ce qui concerne la France, c'est vrai qu'on utilise des armes plus dangereuses que d'autres. C'est vrai qu'on est plus brutaux que d'autres, mais c'est vrai aussi que la gendarmerie française, je sais, c'est la réalité, et non, mais est connue pour son efficacité et qu'il y a un certain nombre de pays qui leur demandent des formateurs.
C'est vrai, c'est vrai.
Je vous rappelle que Michel Alliou-Marie avait même proposé de les envoyer en Tunisie,
ouais, en Tunisie
pour réprimer le début du printemps arabe.
C'est parce qu'elle aimait beaucoup la Tunisie.
Voilà, ouais. Ça doit être ça.
C'était quand même un peu différent.
Ça lui a coûté sa place. Les 80 km/h, une marche arrière qui ne dit pas son nom.
On refait le monde dans RTL Soir.
Marc-Olivier Fauchet.
Ce soir avec Yves Tréhard, Nicolas Demenac, Nathalie Yanetta et Alain Duhamel. Édouard Philippe a du mal à lâcher le frein en marge de l'annonce des bons chiffres de la sécurité routière pour 2018. Le Premier ministre a expliqué contraint et forcé que les 80 km/h pourraient être aménagé à l'issue du grand débat. Les départements pourraient hériter de la décision de limiter la vitesse à 80 ou 90. Au cas par cas, vous avez entendu tout à l'heure Emmanuel Barbe, chargé du dossier au gouvernement. Les 80 sont efficaces, le reste, c'est de la politique. Alors sacrifie-t-on des vies sur l'autel de la popularité, recul ou pragmatisme? Et puis, est-ce que ce n'est pas le premier vrai gros désaccord public entre Emmanuel Macron et son Premier ministre sur les réseaux sociaux, Benoît Galeret?
Il y a comme deux voies, hein, donc forcément plus ou moins rapides. Bah quand même, notre Périne, le nombre de morts à son plus bas niveau historique, ça a l'air de fonctionner un peu cette histoire des 80 ans. Je ne sais pas, répond Attal, il y a tellement de variables à prendre en compte quand on fait des stats, on peut leur faire dire à peu près n'importe quoi. Mais même dans le doute, ça agace Jean-Marc, on parle de perdre quoi, 2 minutes pour sauver des vies? Et encore, là où on pouvait effectivement rouler à 90, sur les petites routes sinueuses, moi je perds rien, assure Alain. Bah alors, passons directement à 10 km/h, on sauverait 3500 vies, mais on n'ira pas loin comme ça, ironise Zion. Trader lâche même que ça dépend des gens, un homme de 40 ans est moins dangereux à 110 en Audi qu'une grand-mère à 70 au volant de sa Punto. Arrêtez d'emmerder les Français. Eric est d'accord, un choc à 80, c'est autant de dégâts qu'un choc à 90, c'est juste pour faire tourner les radars. Pompe à fric, confirme Jérôme, c'est pas le nombre de morts ou de blessés qui les inquiète, sinon ils auraient déjà interdit les flashballs. Sylvie n'a pas d'avis tranché, mais elle aurait aimé, elle, qu'on ait ce débat avant de changer tous les panneaux à 80, ça a coûté un peu d'argent, dit-elle. Richard, en tout cas, trouve le message de l'exécutif toujours aussi flou, d'un côté Macron qui fait mine de vouloir revenir dessus, et le en même temps du Premier ministre qui continue sa pédagogie. C'est pourtant même pas le 80 qui permet cette baisse, conclut Nicolas. Ce sont les gilets jaunes, ils ont évité beaucoup de déplacements en bloquant les ronds-points.
Nathalie, embarrassé ce Premier ministre ce matin en présentant ses chiffres et en soutenant sa mesure, mais en disant que le débat était légitime.
Ah, je dirais pas embarrassé.
Ah bon, vous diriez quoi alors?
Je dirais assez audacieux et qui tient tête. Mmh. Il n'a pas beaucoup changé, il a laissé entendre tous les messages, on a tous bien compris. Hein.
Le débat est légitime, quand on présente des chiffres et qu'on en défend leur efficacité, le débat n'est pas légitime. Ah, a priori, il y a une logique.
Sa conclusion était plutôt sur le registre, il faut continuer.
Il faut
de l'ambition.
Il faut tenir, il tient tête à son président. On a bien compris depuis le début que c'était une mesure que lui défendait dès le départ, alors que... Il semblerait qu'à l'Élysée, bon, on est lâché pour des raisons probablement politiques. Mm-hmm. Il tient tête, Édouard Philippe. Alors c'est là où, comme vous dites, on va avoir un léger problème en termes de communication, parce que c'est quand même très compliqué d'expliquer que des vies sont sauvées et qu'éventuellement on reviendrait sur une mesure pour faire plaisir, entre guillemets, à qui?
C'est son côté Juppé. C'est son côté Juppé. C'est son petit côté Juppé. Il est droit dans ses bottes là pour le coup.
Mais bon.
Ça va se terminer en sifflet de toute manière. C'est-à-dire peu à peu, ils vont demander aux élus locaux de décider à pouvoir discrétionnaire. Et ce qui est d'ailleurs la bonne solution.
Ils vont dire puisque les routes secondaires, etc., dépendent du conseil départemental qui maintenant est départemental. Que au cas par cas on voit bon
ça se terminera comme
vrai
ça.
C'est vrai que le problème de la limitation de vitesse dans les Landes où on a quand même envie de rouler à 120 et en Corrèze ou à côté
où c'est impossible de rouler à 120
où on peut pas rouler au-dessus de 80 de toute façon parce que les routes tournent et qu'elles sont uniquement à deux voies, c'est pas la même chose, hein.
Ouais, c'est ce qu'a dit Richard Ferrand.
C'est évident que c'était la bonne, je pense que d'ailleurs pour beaucoup, beaucoup de mesures et de réformes à venir, et depuis longtemps, on aurait dû adapter cette régionalisation, si vous voulez, c'est d'adapter au territoire, alors c'est pas vrai pour tout, mais adapter au territoire, puisque c'est le terme à la mode aujourd'hui, la législation, ou en tous les cas, la réglementation. Là, ce qui se passe, ce qui est grave, moi, dans cette histoire, c'est que...
Vous n'avez pas l'air de convaincre,
Nicolas. Non, je suis vraiment pas convaincu, la vitesse...
Attendez,
je suis...
Et elle tue partout.
et elle tue partout.
Je suis
quoi.
Un farouche partisan des 80 km/h. Je trouve que c'est céder à la démagogie la plus totale que de. Bah oui, les chiffres sont là et les chiffres, je suis désolé. Bon bah
alors autant néanmoins, l'appliquer partout et basta.
Mais vous êtes obligé de composer pour gouverner, c'est choisir et composer.
Bon, alors on peut. Quelques morts dans cette région-là, quelques ailleurs, puis c'est grand.
Vous voyez bien dans quel état se met le pays sur certaines mesures comme ça. Eh bien là, je pense que le gouvernement, de toute manière, il n'a pas d'autre porte de sortie que de laisser ça aux collectivités territoriales.
Il a été. Était suffisamment Nicolas bon pour que Edouard Philippe, pour que et c'est tellement rare, pour qu'on s'arrête je dirais qu'on le salue, je veux dire, puisqu'il a affirmé une conviction différente de celle du président de la République. Waouh, c'est vraiment exceptionnel quoi. Celui que j'avais appelé à votre micro, Edouard Fusible, va partir sur au fond une, pas du panache mais un plumet quoi, je veux dire une quelque chose de fort, qu'il a dit mais si non mais c'est important, il a dit je tiens à mes 80 km/h parce que ça sauve des vies, et si vous voulez aller la contre, eh bien vous porterez cette responsabilité, mais je serai ferme et droit. Et c'est suffisamment rare, je veux dire, ça fait des mois qu'on attend qu'il exprime quelque chose de différent et de fort.
D'abord, il faudrait qu'il s'en aille. Pour l'instant, on n'en est pas là.
Attendez, je sais que vous êtes pressé. Vous aussi, vous êtes 120 km/h sur les routes.
Ça me paraît assez invraisemblable avant les élections européennes.
Mais je vais vous citer un exemple qui montre...
À la fin du grand débat, au moins.
À la fin du grand débat.
Voilà. Je vais vous citer un exemple qui montre comment l'opinion publique peut parfois être d'une pression totale. L'histoire de l'hépatite B au tournant des années 90, histoire qui m'a été racontée par deux ministres, Kouchner et Douste-Blazy, qui n'appartenaient pas à la même majorité et qui se sont succédés au ministère de la Santé. D'un commun accord.
Ils se sont succédés à la Santé, je ne m'en souvenais plus.
D'un commun accord.
Au Quai d'Orsay aussi, mais.
Ils se sont mis d'accord tous les deux. Kouchner, c'est lui qui avait lancé la chose, et Douste-Blazy qui a continué, pour retirer l'obligation du vaccin de l'hépatite B. Ça mettait les familles dans un état de passion complètement déraisonnable. Quand il y a passion, il n'y a pas beaucoup de raisons. Complètement irrationnel, et qui fait qu'ils ont été obligés de reculer. Et bien là, on est un peu dans le même cas de figure. Quand la Vox Populi est là, et cette Vox Populi, elle est grotesque, parce que effectivement, on sauve des vies avec la limitation de vitesse. Ça se saurait si la vitesse était anodine. Eh bien, là, et malheureusement, ils sont obligés de...
D'arrêter d'emmerder le monde, comme dirait l'autre, puisque c'est ça, donc, le reproche qui leur est fait. Donc,
et de donner accessoirement une place aux élus locaux, qui n'ont quand même pas été nursés depuis le début de ce quinquennat.
Allez, un dernier sujet dans un instant, la lutte contre l'homophobie.
RTL Soir jusqu'à 20h.
On refait le monde avec Marc-Olivier Fogiel.
Ça suffit, tous égaux, tous alliés. C'est la nouvelle campagne contre l'homophobie et la transphobie dans les collèges et les lycées lancée par le gouvernement aujourd'hui. Des affiches et des flyers qui arrivent alors que le jeune Bilal Hassani, idole queer, représentera la France à l'Eurovision. Le jeune homme de 19 ans a lui-même été insulté, traîné dans la boue sur Internet, à l'école. Rendez-vous compte, en moyenne, il subit sur les réseaux sociaux 10 insultes par minute. Et selon lui, ce genre de campagne ne change rien. Alors, on fait assez, pas assez contre l'homophobie. Que faudrait-il faire d'autre? Puisque ça, d'après lui, ça ne sert à rien sur les réseaux sociaux, justement. Benoît.
On n'est pas d'accord sur cette campagne à l'école. C'est tendu entre homos satisfaits, homos mécontents et certains hétéros comme Sépien qui hurlent déjà à la propagande. Eh ben c'est ça, l'homophobie. Penser qu'on peut être pour ou contre l'homosexualité, répond Paul-Marie. Vouloir du respect pour tous, c'est pas de la propagande à l'école. On parle de protéger des gamins d'un harcèlement, confirme Lux. Ça m'aurait beaucoup aidé il y a quelques années à pas me sentir seul, confirme un certain Marc-Olivier Fogiel.
Ah oui,
pas mal. Pas mal, mais dommage que ça vise seulement les ados, regrette Azu. La meilleure période pour parler d'homophobie, c'est plutôt entre 8 et 12 ans, un âge d'ouverture où les enfants comprennent tout. Fredo pense qu'il faudrait surtout impliquer les parents, mais impossible avec les levées de boucliers des intégristes religieux. Et les politiques, lance Passy, comment expliquer à un jeune de ne pas injurier ses camarades alors que pendant ce temps, il voit qu'une députée tient des propos homophobes sans être inquiétée? C'est pas le seul à demander l'exclusion d'Agnès Thil pour un peu de cohérence. Côté Assos, SOS Homophobie salue une campagne de sensibilisation attendue qui vient compléter le travail de prévention en milieu scolaire des Assos. Claire résume plutôt, mieux que rien, mais pas insuffisant. En tout cas, vous parliez de Bilal tout à l'heure. C'est sûr que quand on voit les réactions à sa victoire à l'Eurovision, on comprend qu'il y a encore du travail sur les réseaux.
Ça, clairement. Cette campagne, Alain Duhamel, vous en pensez quoi?
Alors, en ce qui concerne Bilal, je reconnais mon incompétence absolue.
Quoi, vous n'avez pas suivi les qualifications à l'audition
samedi soir. Et donc, il ne faut pas faire semblant de savoir ce qu'on ignore.
Mais en revanche, vous avez vu, indépendamment de sa prestation de samedi, ce qu'il déchaîne sur les réseaux sociaux.
Ça, vous avez vu, parce que
ça dit vraiment quelque chose de la société.
Malheureusement, ce n'est pas du tout quelque chose qui m'étonne.
J'espère.
Mais les réseaux sociaux hystérisent, franchement. Avant, il y avait une homophobie permanente, mais sur les réseaux sociaux, il y a aussi une homophobie qui s'affiche.
Oui, mais regardez, ça dépasse les réseaux sociaux. Vous avez vu les agressions homophobes tout au long de l'année, et de plus en plus nombreuses. Elles ne sont pas le fruit des réseaux sociaux.
Mais attendez, je ne vous dis pas que je trouve que le principe de faire une campagne contre l'homophobie en soi est bien. J'espère que la campagne sera intelligente, j'en sais rien, mais j'espère qu'elle sera bien. Mais sur la nécessité de combattre l'homophobie, je suis totalement d'accord. Ça va de soi. Enfin, je veux dire, c'est même pas une question à se poser. Et ce qui est vrai, c'est que c'est très important de savoir ce qui se dit en famille d'abord. Parce que c'est quand même déjà là que les enfants se font des idées qui quelquefois leur restent dans la tête pour le reste de leur vie à tort. Donc je suis aussi clair que vous souhaitez que je le sois. mais je ne fais pas semblant de connaître un chanteur que je ne connais pas.
Ah non, mais on va vous en passer tout à l'heure rien que pour vous, alors vous inquiétez pas.
Collège et lycée, c'est la bonne cible. Il y a un internaute qui disait, Benoît disait, il faut le faire plus tôt. Non, il ne faut pas le faire plus tôt. Parce que plus tôt, les enfants, ils sont absolument et totalement ouvert. La seule chose qui compte quand on est tout petit, c'est l'amour. En revanche, quand on devient adolescent, collège et lycée, c'est extrêmement difficile d'affirmer son identité sexuelle. Et pour les petits camarades, même les plus ouverts, même ceux qui sont dans les familles où on en parle de manière détendue et absolument bienveillant et tolérant, c'est pas facile. Voilà, c'est pas facile. Alors cette campagne, le ça suffit, évidemment, une campagne de communication, et c'est une communicante qui vous le dit, ça sert jamais à grand chose, sauf à imposer petit à petit, dans le regard, dans l'espace public, y compris pour ceux qui pourraient se sentir victimes, c'est pas normal que tu sois victime de ces insultes, de ces remarques et de ce harcèlement. Mais c'est vrai que c'est un
C'était l'objet de mon tweet, pour le coup. Ça fait plutôt du bien d'avoir
Parce
une campagne.
Parce que d'un seul coup, je pense qu'on se dit ah, voilà, c'est pas juste, c'est pas normal, je n'ai pas à subir ça. Pour autant, est-ce que, et j'ai entendu Bilal ce matin chez une radio concurrente, mais néanmoins amie, dire que lui, il croyait pas bien beaucoup à ces campagnes. Ça sert quand même juste à tout ça. Après, bien sûr, ça ne changera pas. Et on sait tous, et vous le savez plus que quiconque, Marco, qu'il faut un temps infini pour réussir à faire changer les mentalités et qu'on n'y arrive jamais complètement.
Ce qui se passe avec Bilal, moi, je trouvais très intéressant parce qu'il y a l'hystérisation que vous évoquiez de la haine, d'un côté, mais en même temps, c'est un produit d'Internet, hein, Bilal. Il a des millions de followers qui sont dans la tolérance.
C'est d'abord un produit de la télé, pardon.
Oui, mais après, regardez sur YouTube.
Oui, mais c'est un YouTuber, quoi.
C'est un YouTuber essentiellement.
On a perdu Alain Duhamel.
Et pourquoi il a été choisi aussi? C'est parce qu'il a eu un public de la tolérance qui est beaucoup plus vaste que tous les haters.
D'ailleurs, il a été choisi.
Qui est contradictoire.
Mais vous qui le connaissez très bien, c'est peut-être parce qu'il chante bien aussi.
C'est aussi parce qu'il chante bien, mais pas seulement, c'est parce qu'il affirme une volonté d'être ce qu'il est, c'est-à-dire d'être quelqu'un d'efféminé, et il se vit comme ça, et avec bonheur.
Particulièrement, moi je dois dire que je découvre Bilal, mais je le trouve particulièrement courageux, ce garçon. Parce qu'il ne faut pas oublier que c'est quelqu'un qui est d'origine marocaine. Et il faut savoir que dans sa famille, je ne sais pas comment ça s'est passé, mais ça n'a pas dû être simple tous les jours.
Alors ça s'est très bien passé, sa maman et son premier soutien, et il mais dit qu'elle
son,
le défend.
Dans son pays d'origine, ce qui est sûr, c'est que son homosexualité est pénalement répréhensible. Donc c'est quelqu'un qui, je trouve, est dans son milieu d'origine, je veux dire, ça n'a pas dû être simple tous les jours quand même. Et heureusement qu'il y avait sa maman.
Il a dû changer d'école.
Donc c'est pour ça que moi, je le trouve particulièrement courageux. Après, sur la campagne, je suis un peu d'accord avec ce que vous disiez, c'est-à-dire que ce sont des choses, il faut que ça infuse. Ouais. Et je suis aussi d'accord avec Alain. Les premiers responsables sur ce sujet, c'est quand même les familles, c'est les parents. Quand vous êtes dans une famille où les parents ne sont pas du tout... sont malveillants, je ne dis même pas bienveillants, sont malveillants, bien je ne vois pas comment ça peut se passer. Hein.
Alors, juste pour sa maman, parce que pour prolonger ce que disait Nathalie Yaneta, quand il lui a annoncé son homosexualité, elle a fait comme si rien n'était, elle a dit, va faire la vaisselle.
Aujourd'hui, elle répond aux insultes sur les réseaux sociaux, et en général, la réponse, elle est assez évidente, et c'est un peu un coup de poing dans la figure, c'est allez tous vous faire foutre, et moi, je l'encourage à continuer à défendre son fils comme ça.
Juste pour Alain.
Je suis pas dans les codes, ça dérange pas.
12 points. Non, non.
C'est pas. C'est pas mal.
Je suis pas sûr que ça soit ce que.
C'est pas mal, mais j'ai mon temps Gabriel Fauré.
Voilà. J'étais sûr.
Allez, un dernier petit sujet qu'on abordera plus profondément demain. François-Xavier Bellamy, donc.
Ça, on y reviendra demain, je vous le confirme.
Donc, tête de liste choisie par Laurent Wauquiez aux européennes. On va pas refaire le profil du jeune homme de 33 ans, on l'a fait tout à l'heure, donc à l'initiative de Sens Commun, enfin voilà, à droite de la droite. Bon choix de Wauquiez.
Écoutez, il faut laisser
Une chance au produit.
Non, mais c'est pas ça, on va pas faire un procès, instruire un procès à quelqu'un qui n'est pas encore dans l'arène. Donc,
non, mais c'est pas instruire un procès, c'est non, il a un profil particulier. Est-ce que c'est alors, le bon profil pour les européennes, les républicains? C'est ça le sujet.
Alors, le vrai sujet, c'est que, en fait, c'est un trio qui va mener cette campagne.
Comme le Figaro l'a révélé ce matin.
Qui me paraît assez complémentaire. Néanmoins, je suis pas persuadé que ça soit suffisamment fort dans l'état où sont les républicains, ce qui prouve qu'ils ont bien du mal à se rassembler. Ils sont obligés de prendre trois profils qui sont très différents les uns des autres. Il y en a un qui incarne le conservatisme, l'autre qui incarne l'ordre, et la troisième qui incarne le monde de l'entreprise, alors que par le passé, on avait un homme ou une femme qui pouvait incarner les trois à la fois. Donc ça montre la faiblesse.
Là, il y a en même temps tête de liste, c'est pas rien. C'est un symbole.
Simplement, j'ai peur que, si vous voulez, pour une élection qui est déjà une élection qui est pas très regardée, et dans le contexte actuel, sa voix ne porte pas suffisamment.
Est-ce que c'est un bon choix de Laurent Wauquiez, Alain Duhamel?
Non. Vous voulez une réponse claire, vous voulez une réponse courte, vous l'avez.
Et rendez-vous demain pour les
vidéos. Oui, je reviendrai demain dessus.
Jolie idée.
Nathalie.
Le souffle de 2017 continue, en fait. Vous vous rendez compte le blast qu'a réalisé Emmanuel Macron. C'est-à-dire qu'on en est maintenant et à gauche. La question va se poser dans les semaines qui viennent, évidemment, c'est presque pire, à devoir aller chercher des gens qui ont des profils extrêmement segmentants et inconnu du grand public.
Pour terminer, Nicolas, et puis on prolongera demain.
Que le choix qui est fait est un choix sur une élection particulière, les européennes, où ne vont pas voter, au fond, les électeurs populaires. Donc, on se dit que viendront voter les électeurs conservateurs, catholiques. Comme jusqu'ici, Laurent Wauquiez a raté tous ses paris, je n'imagine pas qu'il réussisse beaucoup plus celui-ci, mais peut-être que...
On va terminer comme ça. Peut-être que... Merci à tous les quatre d'avoir refait le monde sur RTL. Dans un instant, le flash de 20h avec Céline Landreau. Et ensuite, c'est vous, Jacques Pradel. Bonsoir, Jacques.
Mais oui, bonsoir, Marc-Olivier.
Au sommaire de l'heure du crime.
Alors, ce soir, en partenariat avec Le Parisien Aujourd'hui en France, nous allons faire le point sur la disparition mystérieuse d'une jeune Française, Tiphaine Véron,
Au Japon,
L'été dernier, pendant ses vacances au Japon. Depuis 6 mois, l'enquête piétine. Toujours pas de nouvelles de Tiphaine. Ce soir, Anne, la mère de Tiphaine, Sybille et Damien, ses frères et sœurs, vont lancer sur RTL un appel à la mobilisation pour que les investigations soient relancées et pourquoi pas pour que la police française puisse aller un jour enquêter sur place.
On vous écoute après le flash, à tout de suite, Jacques.
Vous écoutez RTL.